France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Nous nous sommes quittés hier avec David Simpson, violoncelliste emblématique des arts florissants depuis 40 ans, sauf qu'à son arrivée à Paris, il jouait plutôt la musique contemporaine avec l'ensemble de The 2M. Et comme il n'avait qu'un seul violoncelle, quand il s'est mis à faire le continuo dans les ensembles baroques, il lui fallait tout changer à chaque fois, les cordes, l'accord, c'était trop contraignant. C'est pour ça qu'il a acheté son premier violoncelle baroque. Comme Christophe Coin, c'est avec l'ensemble Les Musiciens du Prince de Conti que Simpson s'est familiarisé avec le tempérament inégal, l'art de l'ornementation, tout ce qui est indispensable aux musiciens baroques. Voici un petit extrait de Purcell, où les cordes graves des arts florissants sont mises en valeur. Marie Groux et Emmanuel Couturier me disaient qu'on avait l'impression, grâce à la prise de son Harmonia Mundi, d'être au cœur de l'orchestre, ce qui est tout à fait vrai, d'autant que je vous parlais précédemment de David Simpson, violoncelliste des arts flo, mais dans les orchestres baroques, un violoncelle est rarement seul. Ici, dans ce prélude de l'acte 5 de Fairy Queen de Purcell, Simpson faisait équipe avec trois autres personnes aux cordes graves, trois autres figures majeures du paysage baroque français. Au violoncelle avec lui Bruno Coxey et Elisabeth Matifa, et à la contrebasse Jonathan Cable. Vous entendiez ces magnifiques pizzicati. Un mot sur Jonathan Cable que j'ai l'impression d'avoir toujours connu comme LE contrebassiste des arts flo, un Américain comme Simpson, comme Christie aussi, né en 1948 dans l'État de New York. Il a étudié la contrebasse en Allemagne, tout en se familiarisant avec la viole, avant de rencontrer la bande à Arnoncourt, Leonhardt, Bruggen, à La Haye, et de comprendre que c'était sa voix, que c'était son univers. Il a d'abord joué chez Reinhard Goebel à Cologne, c'est lui à la basse dans les fameux concertos brandebourgeois que je vous ai souvent passé dans cette émission, puis il a joué chez Philippe Hervaeghe, avant de rejoindre Christie en 85, peu après David Simpson. 85, c'est la date où il a obtenu la nationalité française. Avec eux, il y avait Elisabeth Matifa, autre pilier des arts florissants, violoncelliste et gambiste, mais aussi fille de pasteur et agrégée de mathématiques. Encore une chercheuse qui a contribué à enrichir la bibliothèque de partitions des arts florissants. Elle est au violoncelle ici, dans cette aire de Diane, extrait d'Actéon de Marc-Antoine Charpentier, avec Agnès Mellon.
Nous faisons
Elle est décédée à l'été 2022. Elisabeth Matifa, violoncelliste aux arts florissants, qu'on entendait ici accompagnant le chœur des nymphes et la soprano Agnès Melon dans Actéon de Charpentier avec Marianne Muller à la viole de gambe et Jeb Bernfeld au violone. Diable, violone, et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la facture instrumentale a énormément évolué entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Par exemple, dans les 24 violons du roi à l'époque de Lully, il y avait dessus, haute contre, taille, quinte et basse de violon. Pas de contrebasse. Eh oui, c'est un instrument relativement tardif. À l'origine, on parlait plutôt de violone, c'est-à-dire un grand violon qui au début jouait encore en 8 pieds, donc plutôt une tessiture de violoncelle. Le 16 pieds, une octave plus bas que le violoncelle, a commencé à se généraliser au 17e en Italie et à Vienne. En France, il n'y avait pas de contrebasse avant 1700. Alors, quand William Christie enregistre le livre 8 des Madrigaux de Monteverdi, avec le fabuleux Lamento della Ninfa qui date de 1638, pas étonnant qu'Elisabeth Matifa alterne basse de viol et violone, tandis que Christophe Coin, lui, est crédité au violoncelle. Je me demande si le mot n'est pas anachronique en 1638, mais bon, je ne suis pas spécialiste.
Thank you.
Dans ce Lamento della Ninfa de Monteverdi, il y avait le chœur des Arts Florissants avec William Christie et, au corde grave, Elisabeth Matifa, à la viole et au violone, et Christophe Coin au violoncelle. J'évoquais justement la diversité du paysage des instruments à cordes graves de l'époque baroque. Quelqu'un qui s'est imposé comme un spécialiste de cette diversité, j'ai prononcé son nom tout à l'heure, c'est Bruno Coxey, qui a étudié à Tours avec Didier Aubert, professeur de nombreux baroqueux, puis à Paris avec Christophe Coin, qui est vraiment la référence en termes de transmission, un peu le Anner Bylsma français. Coxey a joué aux Arts Florissants, aux Musiciens du Louvre, au Concert des Nations de Jordi Savall, mais surtout, il a fondé en 1996 son propre ensemble, dont le nom évoque exactement ce spectre large d'instruments. Et cet ensemble s'appelle les Basses Réunies. Alors, avec ses collègues, Richard Myron, Emmanuel Jacques, Guido Balestracci, on lui doit des disques très pédagogiques. Je pense à des albums comme Cello Stories ou La naissance du violoncelle, où il faut vraiment, en plus d'écouter, lire les textes, car on découvre tout un univers pas encore stabilisé entre la basse de violon à quatre cordes, la basse de violon à cinq cordes, sans trancher des débats infinis entre chercheurs, comme de savoir si, par exemple, dans l'évolution presque darwinienne, la contrebasse est de la famille des violons ou des viols. Et puis, comme pour brouiller encore plus les pistes, lorsque Bruno Coxey enregistre le concerto pour violoncelle en si mineur de Vivaldi, il le fait sur un ténor de violon, accordé une quinte au-dessus du violoncelle. Thank you. le violoncelliste Bruno Coxet, au ténor de violon et à la direction des basses réunies dans ce concerto en si mineur RV 424 de Vivaldi. C'est avec le facteur Charles Richer qu'a travaillé Bruno Coxet pour fabriquer les instruments caméléons qu'il utilise avec les basses réunies. Ce ne sont pas des reconstitutions, mais plutôt des réinventions de ce que l'on suppose avoir été la lutherie au XVIIe siècle, avant la stabilisation en violon, alto, violoncelle, contrebasse qui s'est finalement imposée. L'idée pour Coxet étant qu'il n'y a pas de vérité, voilà qui va à rebours de la réputation de dogmatisme un peu étroit faite au courant baroque. Autre bassiste qui a joué un rôle aux arts florissants, c'est Jay Bernfeld, encore un Américain, né en 1952 à New York et qui s'est d'abord passionné pour la comédie musicale avant d'entendre la Tebaldi dans la Bohème, au Met, et de venir étudier la viole, évidemment, avec Jordi Savall. Il était tout à l'heure dans l'enregistrement d'Actéon de Charpentier avec les arts florissants, mais il a fondé lui aussi son propre ensemble, Fuoco e Cenere. Lui aussi joue indifféremment viol de gambe, basse de violon, violone. Là, on va le retrouver à la basse de viol et à la direction dans une chaconne en trio de Jacques Morel, violiste de la première moitié du XVIIIe siècle.
Thank you.
Chaconne en trio de Jacques Morel par Fuoco e Cenere, l'ensemble du violiste Jay Bernfeld. C'était l'avant-dernier épisode de la semaine sur mes violoncellistes et violistes. Il était réalisé par Marie Grou, mixé par Manuel Couturier. Il m'en reste encore pour demain et même comme ça, je ne serai pas complet, mais bon, il faut se faire à l'idée. Très bonne journée à tous, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.